Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous avez remarqué comment on se transforme quand on tombe amoureux? Même quand on s'est éteint, même quand on voit tout en noir, l'amour transforme tout, met de la lumière partout. Et Lucie va vous prouver que quand il s'agit de la vie en elle-même, l'amour peut vous sauver de tout.
J'ai 19 ans, je viens d'avoir mon concours infirmier à Paris, plus précisément à Neuilly-Plaisance. J'ai grandi dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Manosque. Et du coup, j'ai passé des concours infirmiers un peu partout en France pour être sûre d'avoir une place à la rentrée. Et j'ai eu le concours à Paris, à Neuilly-sur-Marne. Donc en septembre, j'aménage dans mon studio, dans une résidence étudiante à Neuilly-Plaisance, à côté de la Marne. Je suis très excitée d'aller à côté de Paris pour faire mes études. C'était vraiment mon souhait d'aller le plus loin possible. Je suis quand même une aventurière. J'ai toujours aimé voyager et même partir un peu seule sans mes parents. Donc là, c'est la grande aventure, mais je suis super contente. À ce moment-là, j'ai un petit copain que j'ai rencontré pendant la prépa pour le concours infirmier. Il a aussi eu son concours d'infirmier, mais militaire. Et du coup, on est à l'opposé pour nos études. Moi, je suis à Paris et lui, il est dans le sud, à Toulon. Mais on se dit que ça peut fonctionner parce que on partage des sentiments. Enfin, on a passé un été ensemble et puis on est bien ensemble. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je monte à Paris. J'aménage dans une résidence étudiante. C'est une grande tour, il y a 7 étages. Donc moi, j'ai un petit studio de même pas 20 mètres carrés, il me semble, avec une petite cuisine, un lit, c'est meublé. Je suis au 3e étage et j'ai une vue plutôt sympa sur la Marne. Les premières semaines, c'est difficile. J'étais très excitée d'aller à Paris, mais c'est vrai que quand mes parents ont fermé la porte, parce qu'ils m'ont quand même accompagnée pour aménager, quand ils ont fermé la porte et que voilà, ils sont repartis, je me suis retrouvée là toute seule dans mon appartement dans cette ville immense. Bah ouais, c'était pas évident. Et pareil, les premières semaines, donc à ce moment-là, j'étais avec Damien qui était loin, la communication est très compliquée. On n'arrive pas à parler, à s'appeler. Moi, je me raccroche un peu à lui parce que je pense l'aimer à ce moment-là. Donc, j'essaie de l'appeler, mais bon, c'est très compliqué et je me sens un peu seule. C'est très compliqué, on n'arrive pas à communiquer par message ou même appel. Donc moi, je lui demande de venir sur Paris pour qu'on se voit, pour qu'on parle. Donc il vient un week-end, 2 ou 3 semaines après la rentrée pour me voir sur Paris. Et là, ça se passe super bien. C'est comme avant, comme si on s'était pas quitté. On parle pas vraiment de nos problèmes de communication. On vit juste le week-end comme ça, à se promener dans Paris. Et il repart le dimanche soir vers Toulon, vers son école. Et le lendemain, il m'envoie un message de rupture. Donc il me largue par SMS. Je me sens nulle, je me sens abandonnée, je me sens vraiment encore plus seule que jamais à Paris. En plus, c'est un vieux SMS vraiment trop nul. Il veut même pas me répondre au téléphone. Moi, j'essaie de l'appeler au moins 50 fois comme une folle. Et lui n'a jamais voulu me répondre. Donc je passe quelques semaines après cette rupture quand même assez compliquée. Heureusement que j'ai ma voisine et ma copine Stacy à côté qui me remonte bien le moral et qui me dit « Bon, bah tu vas pas rester triste trop longtemps, inscris-toi comme moi sur un site de rencontre. On va bien rigoler, tu vas voir, il y a plein de mecs super sympas. » Et me voilà partie donc sur les sites de rencontre où de suite, je pense que dès la première heure, j'ai, je sais pas, 5 ou 6... match ouais, de garçons qui veulent entrer en contact avec moi, donc j'accepte et je commence à papoter avec ces garçons-là sur le site. C'est assez marrant, ils font plein de compliments. Ça booste et ça remonte un peu l'ego qui était à plat avec cette rupture. Les mois passent, Noël passe, toujours dans le même état d'esprit de papillonner, de me faire complimenter sur l'appli. À ce moment-là de ma vie, je suis épanouie, j'ai fait le deuil de cette relation et je me sens bien dans mes baskets. Jusqu'au jour où je vais faire la connaissance de Clément. C'est l'après-midi, un jour où j'ai pas cours. Je suis allée faire des courses dans le centre commercial qui est en face de chez moi. Et je rentre avec mon petit sac plein de courses. Je rentre dans le hall et en fait, je trouve pas mes clés. Donc à ce moment-là, j'ai le sac par terre et je suis moi aussi accroupie en train d'essayer de chercher les clés qui doivent être au fond du sac de course en dessous de tous les aliments que j'ai pu acheter. Et là, l'ascenseur s'ouvre et je vois un très beau jeune homme que j'avais jamais vu avant. Donc ça fait quand même 5-6 mois que je suis dans la résidence et je ne l'avais jamais croisé. Et donc je reste un peu bouche bée en le voyant. Je le trouve super beau, il est grand, il est blond vénitien, il a les yeux verts et il a un style plutôt sympa, un peu BCBG, sportswear, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, il est vraiment beau, je le trouve super beau. Donc je le suis du regard parce qu'il va à sa boîte aux lettres. Donc je me dis trop bien. Il habite ici, du coup, s'il regarde dans la boîte aux lettres. Et du coup, je capte son numéro d'appart en regardant où il ouvre la boîte aux lettres. Donc, il récupère son courrier. Moi, je reste toujours accroupie. Les clés, je les ai retrouvées. Mais je fais semblant de toujours les chercher parce que j'ai envie de l'aborder, mais je sais pas trop comment faire. Je suis toujours accroupie. Je fais semblant de chercher mes clés. Lui passe à côté de moi, me regarde. Je le regarde à mon tour et je lui dis « Attention, où tu mets tes clés ? Moi, je les cherche depuis un moment. » Ou une phrase dans le genre, mais un truc un peu nul. Et lui me regarde sans vraiment s'arrêter, il continue de faire des petits pas en me disant « Non, c'est bon, elles sont dans ma poche. » Et il part. Donc là, je me dis « Bon, bah voilà, tant pis. » Donc il part, moi, bah je prends mon sac et je vais ranger mes courses dans l'appartement. Mais j'ai toujours en tête son numéro d'appart et son nom, en fait. Parce que sur la boîte aux lettres, j'ai regardé comment il s'appelait. Donc il s'appelle Clément. Et il habite au 6e étage, à l'appartement 613. Le soir même, je vais essayer de le trouver sur Facebook. Clairement, je ressens pas le coup de cœur que j'ai ressenti en le voyant sortir de l'ascenseur, en regardant sa photo sur Facebook. Voilà, je le range un peu dans un coin de ma tête et le temps passe. Un mois passe avant que je fasse une soirée avec des amis. C'est juste après les fêtes, Donc, on a du foie gras et on n'a pas d'ouvre-boîte. Et donc là, je dis à mes copines, « Ah, mais les filles, venez, on va essayer de voir le beau gosse du sixième étage. » Ce soir-là, je sais pas pourquoi, je pense à lui. Je l'ai jamais recroisé depuis le premier jour où je l'ai vu dans le hall de l'immeuble. Donc du coup, me voilà partie avec mes deux copines au sixième étage. Donc moi, j'étais au troisième étage. Ça fait quand même beaucoup d'étages pour un ouvre-boîte. Mais voilà, on prend l'ascenseur, on monte, on tape à sa porte. Pas de réponse. On attend un petit peu, pas de réponse. Donc moi, je me dis, mince, il doit pas être là, il est pas rentré des vacances, dommage. Et on commence à partir dans le couloir, et là, la porte s'ouvre. Donc on s'approche avec mes amis, et il ouvre la porte. Donc il a la tête un peu comme s'il venait de se réveiller, pas très en forme, donc il se demande, il nous demande « qu'est-ce que vous voulez ?» J'enchaîne direct en lui demandant s'il a pas un ouvre-boîte, je mets pas plus de contexte que ça, je lui demande pas comment il va, j'engage pas la conversation en tout cas, juste je lui demande l'ouvre-boîte. Donc il me regarde un peu interloqué, mais il nous dit qu'il en a un et il va nous le chercher. Il nous le donne, je le prends et je lui dis que je lui ramène dès qu'on a ouvert le fameux foie gras. Là, c'est le coup de foudre. Il ferme la porte et je dis à mes copines, il est pour moi, ne le touchez pas. J'ai des papillons dans le ventre, même avec sa tête un peu endormie, je le trouve très séduisant. Sa manière de parler, même s'il a dit que deux mots, j'adore. J'ai qu'une envie déjà, c'est de retoquer à sa porte pour lui parler à nouveau. Ouvrir le foie gras et je remonte toute seule du coup pour lui rapporter son ouvre-boîte. J'essaie de parler un petit peu avec lui, mais il est timide et je suis un petit peu timide aussi, donc ça va pas très loin cette discussion. Et je retourne du coup à ma soirée sans en savoir plus sur lui. Coup de chance, il croise mes copines dans le hall de l'immeuble. Lui, il devait partir aussi en soirée, mais il croise mes copines et mes copines lui disent mais vient à notre soirée, monte à l'appartement de Lucie, et elle est au troisième étage, et elle lui donne mon numéro d'appartement. Et donc moi, j'étais dans l'appartement, en train d'écouter de la musique tranquillement. Là, la porte s'ouvre, et en fait, je le vois rentrer, et je suis choquée. Je me dis, mais je l'ai quitté sur une conversation banale où il n'y a rien eu du tout, et là, il est dans mon appartement. Donc je suis trop contente et un peu stressée. Je regarde mon appartement pour voir si c'est rangé, si c'est pas trop le bordel, parce qu'en fait il rentre de suite dans mon espace privé. J'avais pas prévu le coup quoi. Donc on se met à discuter. Il me dit qu'il apprécie la playlist que j'ai fait. Voilà, on papote. Mes copines reviennent accompagnées de deux autres amis et donc on passe la soirée à rigoler, à faire des jeux. À un petit peu mieux se connaître, donc là il y a des échanges de regards, moi je le scrute à la louche et lui aussi quand même, donc ça se voit qu'on se plaît mutuellement. Voilà, la soirée se termine, chacun rentre chez soi, mais je lui donne quand même mon numéro de téléphone sur un petit post-it. Le soir, 30 minutes après être rentré chez lui, il m'envoie un texto en me souhaitant bonne nuit et en me demandant si ça me dit d'aller faire un footing le lendemain matin, sachant que je m'étais un petit peu vantée d'être sportive lors de la soirée, donc je voulais un peu l'impressionner. Le lendemain, on se retrouve à 9h pour aller courir sur les bords de Marne, et en fait, il s'adapte quand même pas mal à ma foulée, qui est pas hyper rapide, et ça nous permet de discuter pendant 45 minutes en courant, en apprendre un peu plus sur nos vies. Donc je découvre qu'il est breton, une région que je jamais allée visiter, et il découvre que je suis du coup du sud, une région aussi qu'il ne connaît pas. Donc on a beaucoup de choses à se raconter à ce niveau-là. Je découvre aussi qu'il fait ses études à l'école Boulle, pour être exactement chargé d'affaires en agencement, donc travailler dans l'agencement. Et c'est un domaine que je trouve fascinant. Moi qui suis dans la santé, j'ai toujours été attirée par l'art, le design. Et du coup, ça me plaît tout ce qu'il me raconte de son école. Donc voilà, pendant ce footing, on apprend à se connaître un peu plus. J'arrive à finir ce footing sans être trop essoufflée et trop rouge comme une tomate. Donc on se donne rendez-vous le soir même pour regarder un film dans son appartement. Alors moi, ça confirme totalement le coup de foudre que j'ai eu quand il a ouvert sa porte la veille. J'explique pas trop, d'ailleurs, d'avoir fini 45 minutes de footing en parlant pendant 45 minutes. Je pense clairement que c'est les papillons dans le ventre qui m'a donné, qui m'ont permis de faire ça. Je le trouve toujours très beau, très intéressant, et j'ai vraiment un coup de cœur pour lui. Le soir, il m'invite pour regarder un film, donc moi, je prends ça pour un date. Donc je me pomponne, surtout que le matin même, il m'a vue en legging, pas maquillée et transpirante. Donc je me dis, je vais tout donner là ce soir pour être vraiment mignonne. Et je vais chez lui, il me propose de regarder La Ligne Verte, pas très romantique comme film, mais je l'ai jamais vu. Donc on s'installe sur son lit, donc il a un lit, une place. Les appartements sont vraiment pas grands, donc on a tous des lits, une place. Donc on s'installe, on s'assoit sur le lit et il met le film sur son ordinateur. Et moi, je lutte pour ne pas m'endormir. C'est très dur. Lui, je le sens très intéressé par le film et moins par moi. Il y a quand même de la distance entre nous deux, même si on est assis à côté sur un lit, une place. Mais on ne se touche pas, il essaie pas de prendre ma main. On ne se regarde pas trop pendant le film, il y a pas trop de commentaires. On est un peu côte à côte, mais rien ne se passe. Moi, j'ose pas non plus parce que je le sens pas hyper ouvert, très timide. Et du coup, on regarde le film qui dure quand même longtemps sans que rien ne se passe. À la fin du film, on débriefe un peu sur le film. Moi, je suis très heureuse de ne pas m'être endormie. Et rien. On se dit bonne nuit et je rentre en se disant qu'on se verrait peut-être le lendemain, mais sans promesse. Donc je rentre un peu déçue sur ma faim. J'ai tendance à avoir une personnalité où il faut que ça avance et vite. Je suis quelqu'un de très efficace, on va dire, et la patience, c'est pas trop mon fort. Là, j'essaie de me raisonner en me disant bon que je le connais quand même que depuis 2 jours. On va pas s'enflammer, je me dis peut-être que lui a besoin de plus de temps, donc j'essaie d'être patiente. Il m'a proposé qu'on se voit à nouveau le lendemain, donc j'accepte. Et je me couche en espérant que le lendemain, il se passe enfin quelque chose. Le lendemain, on regarde à nouveau un film chez lui, et c'est exactement la même soirée que la veille. On regarde le film, rien ne se passe, on se dit bonne nuit, et on rentre chacun, lui déjà chez lui, mais je rentre chez moi. Je me dis, c'est pas possible quand même, 2 soirs d'affilée, où toutes les conditions sont réunies pour que y a quelque chose qui concrétise. Je me dis que peut-être que lui, il veut qu'une relation d'amitié, mais moi, ça va pas me convenir. Donc je décide le lendemain de lui proposer le même style de soirée, mais en me mettant un ultimatum, et de tenter quelque chose si lui ne tente rien. Comme ça, je serai enfin fixée pour pas patienter encore 1000 ans. Donc le lendemain, pareil, on regarde un film. Mais là, je sens que ça va pas se passer de la même manière. Je le sens plus à l'aise, plus entreprenant. À la fin du film, je suis toujours assise sur le lit. Lui, il s'assoit en face de moi sur sa chaise de bureau. Et il me prend la main. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit on va jouer au bras de fer chinois. L'objectif, c'est de s'attraper les pouces. C'est un genre de bras de fer, mais où on doit tenir le pouce de l'autre. 3 secondes, le temps de dire 1, 2, 3, bras de fer chinois. Donc je me bats un petit peu, mais il a plus de force que moi, donc il attrape mon pouce et gagne le combat. Et là, en fait, nos mains ne se lâchent pas. Et il me regarde droit dans les yeux et il m'embrasse. Enfin. Je suis super contente. Je me dis que j'ai pas été folle et que je lui plaisais. Et ce baiser, c'est merveilleux. Les papillons dans le ventre, la respiration qui se coupe. Je suis amoureuse. Et depuis ce premier baiser, on va plus quitter. Vraiment, on va être bouton pression, comme dit ma grand-mère. On va délaisser son appartement pour qu'il vienne plutôt chez moi. Et on va passer toutes nos nuits ensemble, tous nos week-ends. Vraiment, il se passe pas une journée sans qu'on se voit. C'est très fort entre nous. On se parle très librement, je peux tout lui dire. Il y a comme une attraction, une espèce de chaleur quand on est ensemble. On se sent bien tous les deux. Lui est triplé, il a deux frères. Et ses parents donc, sont de Bretagne, à côté de Brest. Sa maman est professeure et son papa travaille dans le commerce du poisson. On vient de milieux similaires, mes parents sont commerçants. On est quand même très différents sur beaucoup de points. Lui est très patient, très posé, très réfléchi. Et moi, je suis beaucoup plus impulsive. On finit l'année ensemble, on fait notre premier voyage ensemble. On part à Amsterdam tous les deux. On est vraiment très amoureux. Ça va très vite. Au bout de deux semaines de relation, on se dit qu'on s'aime. C'est très fort. On fait tout rapidement, mais en même temps, on n'a pas peur. Tout est très rapide, mais c'est comme une évidence. Donc Clément finit ses études et il ne peut plus rester dans la résidence étudiante. Donc là, on décide de prendre un appartement tous les deux parce qu'on peut pas être séparés. C'est très compliqué de trouver un appartement à Paris, mais au bout de trois mois, on trouve un petit studio à Vincennes. Est-ce qu'on a eu de la chance d'avoir ce studio ou est-ce que personne ne le voulait parce qu'il était vraiment nul? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on a notre appartement à Vincennes. C'est 17 mètres carrés. C'est minuscule. La porte des toilettes ne ferme pas complètement si on est assis sur les toilettes. La salle de bain fait 1 mètre carré. Mais on est tellement heureux d'avoir notre chez nous et on voit que les côtés positifs de cet appartement. Tant qu'on est tous les deux, on est heureux en fait, même dans 17 mètres carrés où on vit sur notre lit carrément parce que c'est minuscule. Un soir où on mange à McDo, on se dit tous les deux qu'on aimerait bien partir à l'aventure. Donc on élabore un peu ce projet fou de tout quitter à la fin de nos études pour partir en Asie en sac à dos, en mode aventurier. Pendant un an, c'est un projet qui va nous réunir, qui va encore plus nous rapprocher, où on va éplucher tous les guides des pays qu'on a envie de faire, où on va faire aussi des sacrifices pour économiser de l'argent pour pouvoir partir. Et on organise ça, du coup, sur une année, le temps que j'obtienne mon diplôme. À la fin de l'année 2016, j'obtiens mon diplôme d'infirmière. Donc je suis très heureuse et très fière. Et on emballe toutes nos affaires de l'appartement de Vincennes. On fait les cartons. On met tout dans un camion que mon père et mon frère ont loué. Et on dépose toutes nos affaires chez mes parents pour pouvoir être libre et partir autant de temps qu'on veut en Asie. Le jour où on prend l'avion, on est super excités que notre projet aboutisse enfin. Quand on arrive là-bas, c'est un peu le choc des cultures. C'est très très différent de la vie en Europe. Alors moi, j'étais déjà allée en Asie, mais pour Clément, c'est la première fois. C'est incroyable de découvrir tout ça avec lui. On a loué une petite chambre dans une auberge de jeunesse. Et en fait, on est tellement heureux d'être là, en vacances, tous les deux. On se sent super fort à deux. Rien ne peut nous arriver parce qu'on est tous les deux et nous voilà partis pour un mois d'exploration au Vietnam où on va balader en scooter. C'est la vie de rêve parce que on n'a rien d'autre à penser que ce qu'on va faire le lendemain et qu'est-ce qu'on va aller visiter le lendemain, qu'est-ce qu'on va manger le lendemain. C'est une vie zéro souci, pas de routine. C'est une expérience incroyable. Après le Vietnam, on part au Cambodge. Donc pareil, de la même manière, on fait le Cambodge en scooter. On fait des rencontres incroyables. On se fait des nouveaux amis belges. On visite Angkor Wat. C'est super. On vit de nos expériences, de notre voyage. On est super heureux. Pareil, après le Cambodge, on part au Laos. De la même manière, encore des super moments, des super expériences. Et on décide de clôturer le voyage au Laos par un trek qui mélange tyrolienne et randonnée dans la jungle. C'est un trek qui est assez connu là-bas pour essayer d'apercevoir les gibbons, c'est des singes du Laos. Ce qui est prévu, c'est 3 jours dans la jungle, Donc là, on laisse nos gros sacs à dos à la conciergerie et en fait, on prend que le strict nécessaire pour deux nuits. On nous équipe avec des baudriers pour les tyroliennes et on part dans un groupe où on est une dizaine avec notre guide. Tout est en anglais, on est dans le groupe avec deux Coréens, il y a une Bulgare, deux Français aussi, une Allemande et deux Norvégiennes, il me semble. Le projet, c'est d'aller au plus profond de la nature, au plus profond de la jungle, avec de très grandes tyroliennes qui font entre 200 et 300 mètres de long. C'est vraiment survoler la jungle et essayer d'apercevoir du coup ces singes qui sont très connus là-bas. Ce qui est prévu aussi, c'est de dormir dans une cabane incroyable à je sais pas combien de mètres de hauteur en plein milieu de la jungle. Donc sur le papier, ça a l'air incroyable, une expérience unique. C'est conseillé par tous les guides qu'on peut acheter sur le Laos. Et on se sent trop chanceux de pouvoir vivre cette expérience tous les deux. On part, du coup, on a une petite heure de 4x4 pour commencer la randonnée. Et on commence après l'heure de 4x4 par une heure de marche avant d'arriver à la première tyrolienne. J'ai un petit peu peur parce que c'est vrai que c'est impressionnant de se lancer comme ça dans le vide. J'ai un petit peu le vertige. Donc j'appréhende un peu cette première tyrolienne. Puis au final, c'est incroyable. Ces sentiments de liberté, de voler au-dessus de la jungle, c'est exceptionnel. Et on enchaîne comme ça, marche et tyrolienne, toute une journée jusqu'à arriver à la superbe cabane en plein milieu de la jungle où on va dormir à la belle étoile. C'est vraiment une expérience unique. On est tellement heureux de la vivre ensemble avec Clément. On se regarde, on se dit mais pince-moi, c'est incroyable. On se régale cette journée-là. Elle marque la fin du voyage au Laos et on est trop contents. Le lendemain, on se réveille en pleine nature avec tous les bruits qui sont liés à la jungle. On entend quelques singes. On prend une douche à l'extérieur avec la vue sur la jungle, avec le soleil qui se lève. C'est comme dans un film, en fait. C'est incroyable. On prend plein de photos, plein de vidéos et on part pour la deuxième journée de trek. On enchaîne 2-3 tyroliennes. Et là, on fait une petite pause pour boire sur un petit spot avant d'enchaîner la quatrième tyrolienne. Et avec Clément, on prend un selfie de nos têtes. Alors, on est un peu dégoulinant de sueur parce que il y a beaucoup, beaucoup d'humidité dans la jungle. Cette photo, elle est un peu marrante. On a chaud. En même temps, on a marché. Et juste après donc ce selfie, on va prendre la tyrolienne. Donc là, le guide nous propose de se mettre à deux. Donc à chaque fois, les tyroliennes, c'était un par un. Et là, il nous dit, vous voulez la faire à deux? Donc on dit, ok, super. Donc Clément enroule ses jambes autour de mon buste et on s'élance pour faire cette quatrième tyrolienne. Au début, c'est super. Là, j'ai la GoPro dans la main. Je la mets pour nous filmer, nous, parce qu'on est, on est trop bien. On vole tous les deux au-dessus de la jungle. Lui accroché autour de moi, comme si on se faisait un gros câlin au-dessus de la jungle. Donc, premier sentiment, c'est incroyable. Mais ça va pas durer longtemps. C'est une très grande tyrolienne. Et donc, on part, on est super contents. Je filme avec la GoPro. Et là, en fait, en un claquement de doigts, c'est le chaos. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Mais on se retrouve en plein milieu de la tyrolienne. J'ai très, 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 très mal d'un coup. J'ai la jambe qui pend. Et je vois Clément me regarder et hurler, en fait. Mais moi, je comprends pas, en fait, ce qui se passe. Il n'y a pas un mot qui sort de ma bouche. Et en fait, c'est en voyant Clément hurler que je comprends qu'il y a un truc très grave, là, qui est en train de se passer. Et je regarde ma jambe et effectivement, c'est horrible. Ma jambe pend, elle a été lacérée par le baudrier et elle est ouverte du mollet en haut de la cuisse. Il faut faut arriver à l'autre côté de la colline. Je me tracte en fait avec les bras pour arriver à rejoindre l'autre bout de la colline. Et je me tracte comme ça pendant quelques minutes. C'est très dur. Il faut pas que je regarde en bas parce que on est très haut. Donc on se hisse tous les deux pour arriver au bout de la tyrolienne pour rejoindre en fait la terre. Et c'est très dur parce que les derniers mètres, c'est horrible. Moi, je vois le guide qui est de l'autre côté, mais j'arrive pas, j'ai plus de force. Donc il coupe un morceau de bambou et il me le tend pour que je l'attrape, pour que lui me tracte jusqu'à la terre. Et comme ça, ça dure quand même quelques bonnes minutes, mais c'est très très long. À ce moment-là, je sais pas du tout ce que j'ai, je sais juste que j'ai très 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 mal et j'ai l'impression que je vais mourir. Mais j'ai encore la force de me tracter avec le guide et ce bambou qui arrive à me ramener sur terre. Et là, je me pose et je peux voir un petit peu l'étendue des dégâts. J'ai la jambe lacérée dans tous les sens. Le baudrier m'a complètement coupé la cuisse jusqu'à l'os. Je touche avec mes mains et j'essaie de remettre un peu la peau en place pour protéger l'os parce qu'on est en pleine jungle, il y a plein d'insectes, c'est la terre, c'est pas du tout aseptisé, on n'a pas de trousse de secours, c'est la catastrophe. Moi, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Clément, à son tour, arrive à se hisser et à venir près de moi. Et on fait un peu le bilan et on regarde et en fait, on voit que un arbre dépasse sur la trajectoire de la tyrolienne. Et en fait, on en déduit qu'on était trop lourds, tous les deux. Et j'ai touché cet arbre qui dépassait avec mon tibia. Et ça nous a stoppé net à 50 km/h. C'est comme si on s'était pris un mur, en fait. Et moi, j'ai fait airbag pour Clément, parce que Clément n'a rien. Ah, je me dis, c'est la catastrophe. Je fais le bilan dans ma tête. On est au milieu de la jungle, à 2 jours de marche, quasiment, de la ville. Je viens d'être diplômée infirmière, donc je me dis c'est grave, ça saigne énormément. Je demande à 2 Coréens qui étaient passés avant nous de me donner un vêtement. Ils me donnent leur t-shirt et avec le t-shirt, je fais un garrot à 2 endroits donc où j'ai les plaies en fait qui sont en train de saigner énormément. Clément est en état de choc. Autant moi, je reste très stone. Je sais même pas comment je fais, mais c'est comme s'il y avait aucun sentiment qui pouvait s'exprimer de moi. Je reste stoïque. Autant Clément est paniqué. Il fait les 100 pas. Il crie après le guide. Il demande à ce qu'un hélicoptère vienne me chercher tout de suite. Il veut pas entendre raison. J'essaie, moi, de le calmer et de dire, mais l'hélicoptère ne viendra pas. On est au Laos. Il n'y a pas de secours. On est en pleine jungle. Et on peut rien faire, on est dépendant de notre guide et de ce que lui va nous proposer en fait. Donc le guide vient vers nous et nous dit que des hommes du village vont venir pour nous aider et surtout me porter, me transporter pour pouvoir m'acheminer au dispensaire. Au bout de 2 heures, les hommes du village arrivent. Ils fabriquent une espèce de brancard avec des bambous. Donc, ils coupent les bambous sur place et ils attachent une espèce de couverture militaire en toile de coton à ces bambous. Et là commence encore une nouvelle aventure. On marche comme ça pendant ce qui me semble des heures et des heures. Il y a 2 hommes devant le brancard qui ont des machettes, qui coupent les bambous pour pouvoir nous frayer un chemin et arriver plus rapidement à la voiture. On traverse à un moment donné une rivière avec beaucoup de courant. Je me dis qu'ils vont me lâcher, que je vais tomber. À chaque secousse, c'est horrible la douleur. C'est indescriptible. Je sens que je me vide de mon sang, j'ai extrêmement mal. Je leur répète, ne me faites pas tomber, ne me faites pas tomber. Ils essaient de me rassurer comme ils peuvent et Clément est là à côté de moi, il me tient la main. Impuissant. Et je revois ses yeux me regarder et être désolé dans les yeux. Quand il est... Mais en même temps, il est pour rien. C'est très très long cette marche dans la jungle. Au bout d'une heure et demie, il me semble, on arrive enfin sur une plaine où une voiture nous attend. Donc c'est une ambulance des années 20, je pense. Et donc, il faut me transférer du brancard en bambou qui a été construit au brancard en bois qui va dans la voiture. À ce moment-là, quand il me soulève pour me mettre sur l'autre brancard, j'ai l'impression que je meurs. La douleur, elle est horrible. Et là, je suis par terre sur le brancard qui va dans la voiture. Et Clément est à côté de moi et je lui dis « ça va pas, je suis en train de mourir ». Et donc je lui dis que je l'aime, je lui fais un peu mes adieux. Je sais pas comment expliquer que je sens que je vais mourir, mais je pense que la douleur est telle que je peux plus supporter, en fait. Et je vois, quand il me soulève, en fait, je vois l'état de ma jambe que je ne voyais pas allongée. Et la douleur plus la vision de cette horreur, je me dis, je suis en train de mourir, je meurs. Et donc, je lui dis au revoir. J'ai pas peur, je pleure pas, je reste très stoïque, comme si j'avais plus de sentiments, comme si je ressentais plus rien en fait. J'essaie de me créer une bulle pour plus penser à la douleur ou j'essaie de penser à rien en fait. Dit que je l'aime, que c'est l'homme de ma vie, que j'étais tellement heureuse de partager ces expériences avec lui, que je l'aime à la folie. Je répète, je t'aime plusieurs fois. Et il me prend la main et il me dit que je suis une battante, qu'il me connaît pas défaitiste, qu'il faut que je reste avec lui, qu'on a encore plein de choses à découvrir. Et il me dit que je suis la femme de sa vie et qu'il veut m'épouser. Ça sort tout seul, c'est des mots qui sortent vraiment tout seul. Il me dit je t'es la femme de ma vie, je veux t'épouser, et il bute sur je veux t'épouser, et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit mais oui, je veux t'épouser, est-ce que tu veux devenir ma femme? Et à ce moment-là, je le regarde et je lui dis oui, et ça me redonne espoir, et ça me redonne un élan de combativité où je me dis bah non, en fait te laisse pas aller, il a raison, j'ai pas fait déjà tout ça pour rien, je me laisse pas aller et je suis forte. Avec tout son amour, il essaie de me redonner un élan de vie, il veut que je me batte et il veut pas que je parte, et moi ça marche parce que je l'aime à la folie, et ça demande en mariage dans ce contexte là c'est incroyable, et clairement ça, il se passe un truc en moi et c'est reparti. Je veux vivre. Ensuite, on me met dans la voiture et on m'amène dans un premier dispensaire où on va me mettre de la morphine, enfin, parce que je souffre énormément et c'est 7 heures après l'accident qu'on me met enfin ma première dose de morphine et où on va me faire mes premières radios. Donc on va enfin savoir qu'est-ce que j'ai exactement, même si on se doute que c'est quand même grave. Je dis quand même à Clément, en fait, il m'a redonné tellement un élan de vie que je lui dis, avant de partir à la radio, non mais t'inquiète pas, peut-être qu'avec un plâtre, d'ici un mois, on pourra repartir et continuer le voyage. Je suis d'un optimisme sans nom à ce moment-là. Mais ça va vite redescendre parce que après la radio, on nous annonce que j'ai le bassin fracturé en deux et une fracture ouverte du fémur, très grave. Et il faut de suite me transfuser, m'opérer pour me placer un écarteur pour ne pas que les os se chevauchent. Tout va très vite à ce moment-là. On ne peut pas me laisser dans ce dispensaire, donc on me transfère dans un hôpital en Thaïlande. Donc on me transfère dans le nord de la Thaïlande pour pouvoir me faire cette première opération et surtout me transfuser parce que j'ai perdu énormément de sang. Je reviens de cette première opération où on m'installe dans une très grande salle avec une vingtaine d'autres patients thaïlandais. Clément est toujours avec moi. Lui, il n'a pas du tout de chaise ni de lit à côté de moi. Donc, il dort par terre à côté de moi. On a encore nos vêtements du trek et de l'accident. Lui a pas mal de sang parce qu'il était vraiment collé à moi. Moi, j'ai de la terre dans les cheveux, j'ai de la terre dans les pieds. On m'a pas du tout lavé, quoi. On m'a opéré vite fait comme ça. Mais on se regarde tous les deux et on se sent très isolé et soudain très très loin de notre famille et on est un peu déboussolé à ce moment-là. À ce moment-là, on se refait le film tous les deux de ce qui vient de se passer. tout en n'étant pas sûre de l'avenir non plus, parce que on n'est pas dans un très bon hôpital. J'ai tellement mal, en fait, je suis tellement pas bien que je... C'est comme si j'étais dans un monde parallèle. Je laisse Clément gérer tout le reste, tout ce qui est administratif, l'assurance, mes parents. Je suis vraiment en état second. Ils me mettent de la morphine en intraveineuse toute la journée. Je le laisse vraiment tout gérer et je m'accroche à lui. Et je suis transférée dans un hôpital un peu mieux dans le centre de la Thaïlande où mes parents nous rejoignent. Et là, c'est un peu le soulagement pour Clément qui va pouvoir être épaulé par mes parents. Et moi, je suis vraiment heureuse de les voir. Et tous les deux, on se sent vraiment beaucoup mieux une fois qu'ils sont là. Je vais rester un mois en tout à l'hôpital en Thaïlande, en changeant 3 fois d'hôpital. À un moment donné, un chirurgien, justement, parle de l'amputation. Parce que l'os est infecté. Donc c'est la douche froide pour nous tous, et on demande d'avoir un avis, un autre avis. Moi, je dis, je me fais pas amputer en Thaïlande, c'est pas possible. Il faut que je sois transférée en France. Donc, Clément, surtout, passe des heures au téléphone avec les assurances pour me faire rapatrier. Et on finit par me rapatrier, donc, un mois après, en France, où là, l'amputation n'est pas d'actualité. L'infection est passée et on m'opère en France pour la fracture du fémur. Tous ces moments très 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 durs, Clément il est toujours là, toujours présent. Il va être très patient avec moi. Je découvre sa patience en fait et sa bienveillance. Il va me prouver encore plus qu'il m'aime en étant à côté de moi en fait et en ne faisant rien que d'être à côté de moi. Et ça m'aide énormément à passer ces moments douloureux avec lui et surtout à envisager un avenir prochain qui sera positif et de voir le bout du tunnel avec lui. En France, après mon mois d'hospitalisation où on m'opère, on décide avec Clément d'aller chez mes parents. En fait, je dois rester alitée pendant 4 mois à cause de la fracture du bassin, donc je peux pas bouger pendant 4 mois. Et donc, on installe un lit médicalisé dans le salon de mes parents, où Clément va dormir à côté de moi dans le canapé. Pendant ces 4 mois-là, petit à petit, je récupère, les kinés viennent tous les jours. Clément se transforme un peu en aidant, parce qu'il va m'aider à vider le bassin. Je peux pas me lever pour aller aux toilettes, donc c'est lui qui me met le bassin, qui le vide, quand mes parents peuvent pas le faire. Les rôles dans notre couple vont évoluer. Il n'y a plus de barrières, l'intimité est rompue. On est très jeune, on a 23 ans à peine, et il est déjà obligé de me changer le bassin. Dans la tête, c'est vraiment pas facile, ni pour moi, ni pour lui. Mais on est tellement proches, et on s'aime tellement, et on n'a pas le choix en fait. On le fait et ça ne fait que 3 ans qu'on est ensemble. Alors on s'aime à la folie, on est amoureux vraiment comme jamais, mais c'est des moments extrêmement difficiles à passer. Il fait beaucoup d'efforts pour être là, mais en même temps pas trop non plus parce que j'ai des sautes d'humeur. Il y a des moments où je lui en veux de ne rien avoir eu. Pourquoi moi j'ai tout eu? Pourquoi lui n'a rien eu? Alors il faut qu'il gère avec moi, avec mes sentiments, et en même temps il s'énerve jamais et il essaie toujours d'être là et d'être bienveillant avec moi. Après des mois de rééducation, je retrouve la marche. Donc je marche avec une béquille, mais je marche enfin. Même si je suis quand même assez faible, je retrouve une vie à peu près normale. Clément décide de reprendre le travail parce que voilà, ça y est, je vais mieux et il faut qu'il reprenne une activité aussi. Parce que vivre chez mes parents, c'est pas une solution sur la durée. Donc on se dit, il nous faut un nouveau projet. Donc voilà, le nouveau projet, c'est de trouver un appartement à Marseille, trouver un boulot, ce qu'on fait. Et on aménage dans notre nouvel appartement et on retrouve un petit peu notre vie d'avant, notre vie de couple. où on se retrouve et où on réapprend à vivre ensemble, que tous les deux, sans mes parents et sans aussi le handicap. Donc on reparle de notre projet de mariage et on a tous les deux très envie de mener à bout ce projet et d'être enfin mariés. J'ai envie d'être sa femme et lui a envie d'être mon mari. C'est vraiment quelque chose qui compte pour nous deux. Surtout après l'épreuve qu'on a vécue tous les deux, ça nous tient vraiment à cœur d'être mari et femme, d'être mariés, que ça soit acté. On organise ce mariage. On hésite entre la Bretagne et le Sud, mais le Sud l'emporte grâce à la météo. En parallèle du projet mariage, on pense à avoir un enfant. On en parle de plus en plus et du coup, on décide d'essayer. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis que ça va être très long et je me dis même que ça va peut-être pas marcher. Parce que lors de l'accident, les reins ont été touchés, mes organes génitaux ont été touchés et j'ai fait un peu l'autruche avec ça. Et depuis l'accident, j'ai pas du tout consulté de gynécologue. Donc je me dis que de toute manière ça marchera pas, donc on peut tester et puis voilà. Un mois après je tombe enceinte. Donc énorme surprise. Je m'attendais pas du tout. Dans ma tête, ça allait tellement prendre du temps que là c'est extrêmement rapide, sachant que le mariage est dans 3 mois. Donc c'est l'avalanche d'émotions. Et c'est la joie, c'est l'explosion de joie pour nous deux. Après avoir découvert que j'étais enceinte, on se marie. C'est une très très belle journée, beaucoup beaucoup d'émotions, parce qu'évidemment tous nos invités sont au courant de notre histoire, de notre parcours. Nos parents, nos frères, nos sœurs font des discours incroyables et on est comblés de joie tout en sachant ce qui se passe dans mon ventre. C'est une journée merveilleuse. Aujourd'hui, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. On est mariés depuis 2 ans. On a un petit garçon d'un an et demi, Félix. Et maintenant, ça fait plus de temps qu'on est ensemble après l'accident qu'avant. Et je voulais dire à Clément combien je l'aime et lui rendre l'appareil après tout ce qu'il a pu faire pour moi et pour notre couple pendant ces moments douloureux. Je voulais témoigner pour lui rendre hommage, pour le remercier de m'avoir maintenu en vie quand j'étais à 2 doigts de partir. C'est grâce à lui et à ses mots, à cette demande, qu'aujourd'hui on est notre famille. Et voilà, je lui en serai toujours très 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 reconnaissante.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.